Bonsoir à vous. Bienvenue pour cette soirée autour de ce livre de Michel Fédoux, qui est le troisième volume de cette trilogie intitulée « La voix du Christ ». Un ouvrage qui propose une synthèse sur les grandes évolutions de la christologie chez les pères de l'Église. Ce troisième volume est consacré spécifiquement aux débats christologiques qui ont eu lieu dans l'Occident latin entre le IVe et le VIIe siècle. On peut dire d'Hilaire de Poitiers à Isidore de Séville, comme le dit le sous-titre, avec donc quelques géants comme Ambroise, Augustin, Léon, Boès et Grégoire le Grand, par exemple. Ce volume fait suite à un premier tome qui était consacré à la genèse de la christologie dans le contexte de l'Antiquité du IIe au IVe siècle, et un deuxième volume qui, lui, traitait du développement de la christologie dans le contexte religieux de l'Orient ancien, IVe au VIIIe siècle. Donc ces trois volumes qui forment un ensemble ont été publiés dans la collection Cogitatio Fidei aux éditions du CERF, et j'en profite pour remercier chaleureusement Renaud Escandre et Alexandra Berthet des éditions du CERF, qui nous font l'honneur aussi de leur présence ce soir. Pour nous aider à prendre la mesure du travail réalisé par Michel Fédoux, deux familiers des pères de l'Église et de la christologie ont accepté d'intervenir. Il s'agit d'Isabelle Baucher, professeure de philosophie ici au Centre Sèvres et doyenne de la faculté de philosophie. Elle est aussi chercheure au CNRS, dans le laboratoire d'études sur le monothéisme, et membre du comité scientifique de la bibliothèque augustinienne. On peut dire qu'Isabelle Baucher est une très bonne spécialiste d'Augustin, de renommée internationale. Et elle coanime, avec Michel Fédoux et Martine Dulahaye, un séminaire de recherche ici sur l'exégèse patristique des récits d'apparition du ressuscité. Voilà, séminaire qui a travaillé auparavant sur d'autres textes, d'autres commentaires des Pères de l'Église, sur d'autres textes bibliques. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté de nous partager quelques fruits de votre lecture de cet ouvrage de Michel Fédoux. Et puis nous avons la chance aussi de recevoir ce soir Jean-Louis Soulty, professeur de théologie fondamentale et systématique, qui a longtemps enseigné la christologie au Theologicum de l'Institut catholique de Paris. Il dirige l'Institut supérieur de liturgie depuis 2010 et il s'intéresse aussi à la théologie pratique, à l'anthropologie liturgique, et on peut dire son axe de recherche concerne la pertinence de l'acte de foi chrétien dans la société contemporaine, souvent caractérisée de postmoderne. Si nous avons invité Jean-Louis Soulty ce soir, ce n'est pas, vous l'avez compris, je pense, en tant que spécialiste des Pères de l'Église, mais plutôt comme théologien qui a enseigné la christologie et est sensible aux défis que pose la foi en Christ pour nos contemporains. Et nous avons pensé que ça pourrait nous aider à mesurer l'actualité de la réflexion des Pères de l'Église, ou du moins à comprendre pourquoi la réflexion théologique présente peut difficilement se passer de ce travail des Pères. Merci beaucoup, Jean-Louis Soulty, d'avoir accepté cette invitation. Enfin, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire que je vous présente Michel Fédoux, mais je rappelle simplement qu'outre son engagement ici au Centre Sèvres, qui ne porte pas uniquement sur la patristique, par exemple il fait le cours sur la Trinité, Michel Fédoux est entre autres membre du Conseil scientifique de sources chrétiennes. Et puis il est également engagé depuis de nombreuses années dans le champ de l'écuménisme. Il est membre du groupe des Dombes et il participe à la Commission internationale luthéro-catholique, notamment. Enfin, en lisant son livre, vous apprendrez que Michel Fédoux a été baptisé à Lyon, dans l'église Saint-Augustin, qu'il a fréquenté l'église Saint-Léon, à Nancy, et que ses parents étaient paroissiens de l'église Saint-Ambroise de Paris. Son travail est donc aussi un hommage à ceux qu'il a reçus, parfois avant même d'en avoir conscience, de ses illustres prédécesseurs dans le travail d'intelligence de la foi. Nous allons donc ce soir entendre les réactions d'abord de Jean-Louis Soulty à la lecture du travail de Michel Fédou, puis d'Isabelle Boucher, et enfin nous laisserons la parole à Michel Fédou, et bien sûr il y aura du temps pour un échange avec la salle. Voilà. Merci beaucoup, et donc je laisse la parole à Jean-Louis Soulty.
Merci beaucoup. Je suis évidemment très honoré d'être invité à cette table pour, non pas commenter, mais pour donner quelques remarques sur une grande œuvre. On avait, pour les étudiants autrefois, toujours actuellement, les volumes de Johannes Quasten pour s'initier au Père de l'Église. On a eu les quatre tomes en français de Alois Grillmayer. Et maintenant, on a cet opus magnum du professeur Michel Fédou. Donc un grand merci au doyen et à Michel Fédou de me permettre de prendre la parole ce soir sur cette grande œuvre, sur l'ensemble des tomes, en 20 minutes. Mais je souligne d'abord l'œuvre que représente La Voix du Christ, bien sûr en trois volumes de Michel Fédou, en y ajoutant le Christ d'Origène. En 95, cela témoigne de plus de 20 ans de recherche en patristique grecque et latine sous l'angle de son intérêt pour aujourd'hui. Et après le premier volume consacré à la christologie du IIe et IIIe siècle, le second, celle de l'Orient chrétien du IVe au VIIIe siècle, voici donc le dernier qui s'intéresse à la christologie latine durant cette même période. Et les trois volumes, me semble-t-il, ont établi la thèse que en tout cas c'est celle que je retiens, que les langages du Christ se sont développés au fond, selon trois axes, c'est ainsi que Michel Fédou l'a noté dans le volume 1, l'axe apologétique, dogmatique et spirituel. Trois axes coordonnés l'un avec l'autre. Dans une étroite connexion aux circonstances historiques, les discours chrétiens n'ont cessé d'accréditer la voix du Christ dans des langues diverses. Et la question de la langue est très importante en ce domaine. Et aussi dans des cultures à des époques de grandes mutations. Ils insistent donc sur ces volumes, sur la théologie, mais aussi, je trouve cet aspect très important des ouvrages, sur la conversion que demande l'être chrétien, non seulement à l'égard des doctrines étrangères, mais aussi à l'égard des habitudes de vie et des pratiques quotidiennes, idolâtres ou polythéistes. Le livre de ce tome 3 de la Voix du Christ reprend l'ordre chronologique comme les tomes précédents et pour présenter les auteurs et les textes de manière que j'ai trouvé extrêmement pédagogique, et c'est très important. Les textes sont cités abondamment, commentés évidemment de manière précise, et il est important de dire que et c'est ça qui m'a frappé, que les discours christologiques de cette époque, comme dans les volumes précédents, sont bien restitués dans leur contexte. Ici, dans le contexte historique de l'Occident chrétien. Et de sorte, on évite les anachronismes sur des notions si difficiles à l'époque et aujourd'hui, par exemple, la notion de personne ou de nature. Au moment où on veut réintroduire le consubstantiel dans le credo, je pense que ces mots et ces concepts, ces catégories restituées dans leur émergence historique et dans leurs évolutions historiques, c'est très important, comme dans le cas de Léon le Grand, par exemple. L'étude donc des auteurs par Michel Fédou fait apparaître leur insistance, j'ai noté, sur l'humanité du Christ contre toutes les tendances d'Ossète et sur la volonté salvifique universelle de Dieu à l'égard des nations, deux dimensions qui restent extrêmement prégnantes pour notre modernité. Les tendances d'Ossète ne sont pas seulement les maladies infantiles du christianisme, elles sont malheureusement encore des tendances très actuelles. Et la question de la volonté salvifique universelle de Dieu à l'égard des nations et de l'humanité, de toute l'humanité, reste une question prégnante pour aujourd'hui. Les interlocuteurs culturels du christianisme ont obligé aussi à des précisions importantes, qu'il s'agisse des barbares ariens, des néoplatoniciens ou des manichéens. La méthode employée dans cet ouvrage celle qui est rééditée de la méthode qu'on trouvait déjà dans le tome 2, celle du temps et de l'espace, et ainsi le livre suit une progression chronologique pour percevoir des évolutions, et l'on est rendu alors attentif à ces lieux d'élaboration des discours chrétiens comme à leur contexte politico-culturel. De sorte qu'une synthèse christologique ne peut pas se faire, et c'est la force d'un tel livre, au détriment des particularités auxquelles il faut s'arrêter, dans lesquelles on ne perçoit pas toujours les métamorphoses de l'apologétique. La première partie du livre est consacrée à la christologie latine jusqu'au IVe siècle, à l'exception d'Augustin. La seconde porte sur Augustin. Et puis la troisième porte sur les controverses du Ve siècle. La dernière étudie la christologie dans différentes aires géographiques du Ve et du VIIe siècle. Comme au terme du second volume, on est enclin avec ce deuxième tome à ne pas trop vite associer, et Michel Fédoux le note, à trop vite associer les termes nestoriens et monophysite, ce que l'on pourrait faire rapidement aux auteurs étudiés. La suggestion de Michel de parler de monisme christologique et de dualisme christologique semble prudente. C'était un avertissement du tome 2 pour mesurer leur résurgence sous d'autres formes dans l'histoire du dogme. Bref, un parcours qui est très précis sur l'histoire des doctrines et sur leur contexte historique d'émergence, et en même temps très actuel. C'est pourquoi je retiens dans un deuxième point deux aspects de christologie qui me semblent très contemporains. La question de la médiation du Christ dans la crise arienne, et puis la question des autres religions et la pluralité des chemins vers Dieu. On mesure bien, avec la première partie de l'ouvrage, le débat de la christologie latine avec l'arianisme, tant avec Hilaire, livre 10 du De Trinitate, sur la passion du Verbe fait chair, qu'avec Marius Victorinus, avec Ambroise, Jérôme et Ruffin. Et il est à noter ici la manière dont, en tout cas j'ai noté la manière dont Victorinus utilise la philosophie du temps, de l'époque, le néoplatonisme, pour rendre compte justement du consubstantiel nicéen dans cette controverse anti-arienne. Je pense qu'il y a là un débat et un usage de la langue dans une langue qui n'est pas encore très chrétienne, une langue qui n'a pas appris à se forger la cohorte des concepts christianisés pour rendre compte d'éléments bibliques, mais dans une controverse avec Arius qui perdure longtemps. On va retrouver cette orthodoxie chez Ambroise avec une inclination forte pour présenter l'humanité du Christ dans une ligne antiochienne. Elle le conduira d'ailleurs, comme il est noté dans le livre avec le poète chrétien Prudence, à résister à la religion romaine polythéiste comme dans la controverse passionnante sur l'autel de la victoire, à lire comme un roman. La polémique avec l'arianisme a donc obligé le christianisme à forger des arguments scripturaires et théologiques pour établir que le Fils est éternellement engendré du Père, mais devenu homme un jour du temps sans cesser d'être Dieu. Ambroise et Jérôme vont prolonger, eux, de leur côté, des débats orientaux avec Apollinaire, Nestorius, Eutychès, et ils redirent bien que le Verbe avait assumé la nature humaine en toutes ses composantes. Léon, lui, dans le tome à Flavien, insiste sur la consistance de l'humanité du Christ et l'intégrité donc des deux natures. Je pense que tout ce qui est dit de la diffusion, de la prolifération de la crise arienne me semble très actuel dans ce tome, parce qu'au fond c'est toujours la question de la réalité de la médiation du Christ qui est en cause. Et pour aujourd'hui, il me semble que on entend beaucoup encore de propos chrétiens qui font du Christ un intermédiaire plus qu'un médiateur. La question reste donc très vive, très actuel, et retraverser ces débats me semble riche d'enseignements pour reprendre la question à nouveau frais dans notre contexte. Avons-nous encore besoin de Jésus comme médiateur, nous qui venons après Kant, puisque nous avons une idée rationnelle de l'homme idéal dans notre raison? Il n'a pas besoin de se manifester historiquement. C'est une vraie question, c'est cette question de la médiation du Christ. L'autre question, c'est la question de la volonté salvifique de Dieu et la pluralité des chemins vers Dieu. La controverse pélagienne a mobilisé la christologie du côté de la mort du Christ et de sa portée universelle avant les débats engagés ensuite avec Nestorius et Eutychès avec la formule théopachite et l'affaire des trois chapitres. Mais elle a surtout témoigné, cette controverse, de la question du salut des autres, qui ne sont pas seulement ceux qui sont nés avant le Christ, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure avec Augustin, mais avec tous ces autres du 5e siècle. Et c'est déjà l'argument d'Augustin dans la lettre à Déogratias, expliquant que dès avant le Christ, on a pu être sauvé par lui, qu'on a pu entrevoir la patrie sans connaître la voie, qui est le Christ. Prosper d'Aquitaine s'emploie lui aussi à résoudre cette équation en soulignant dans le De Vocatione Omnium Gentium que Dieu sauve tous les hommes de manière variée et parfois cachée. Alors, encore un thème qui est très prégnant dans le dialogue interreligieux et la théologie religion aujourd'hui. La controverse pélagienne a conduit Augustin à préciser ce statut des justes avant l'incarnation. Elle le mena alors à une théorie de la prédestination du Christ pour fonder l'affirmation que la foi requiert la grâce. Mais la thèse corollaire était que Dieu n'avait pas prédestiné tous les hommes. Cette restriction de la première à Timothée, chapitre 2, verset 4, demeure une difficulté. Michel Fédou m'a semblé se prendre un moment à rêver qu'Augustin, s'il avait été plus vieux ou s'il avait vécu plus longtemps, aurait pu réconcilier Antioche et Alexandrie. Il aurait même pu réconcilier Cyril et Nestorius s'il n'était mort en 430. Il se serait alors agi de tenir ensemble les deux natures pour Cyril et d'accepter l'union dans la personne pour Nestorius. À la question de la transmission de l'évangile aux nouvelles cultures, il me semble que le livre montre que les pères latins ont apporté la réponse d'un véritable retour à l'écriture, comme l'atteste l'enracinement scripturaire d'un Hilaire, d'un Jérôme, ou encore comme le montre la grande argumentation scripturaire d'Augustin ou de Léon. Avec ce dernier, c'est encore l'humanité du Christ qui se trouve, selon lui, mise en cause par le manichéisme à Fort Roland d'Ossète. Et le Thomas Flavien témoignera, à sa manière, d'un certain équilibre de la christologie des deux natures, à condition, là encore, de s'interroger sur le langage, c'est-à-dire de prendre le mot « nature », c'est bien noté dans le texte de Michel Fédou, le mot « nature » dans le contexte de l'époque, qui n'est pas spéculatif, mais plutôt proche du mot « naître » ou « nativitas ». Le Fils de Dieu est né de Marie et de toute éternité. La notion de personne aussi est chez lui très concrète, désignant le sujet formé de la divinité et de l'humanité, désignant le logos préexistant devenant chair un jour du temps. Michel Fénoux note que la réponse à la rencontre de nouvelles cultures par le christianisme ne fut pas que doctrinale, je pense que c'est à souligner. Il y a eu le témoignage des hommes qui ont beaucoup compté, le monachisme par exemple, et la vie spirituelle d'un Jérôme, d'un Ruffin, qui diffuse le témoignage rendu au Christ aux côtés de Martin de Tours et de Benoît de Nursie, ou le pape Grégoire qui fait connaître ses modèles de sainteté dans les dialogues. Il faut compter sur les hommes et leurs témoignages, et pas seulement sur l'affrontement des doctrines. Ces pères latins furent aussi laborieux, je crois que c'est un aspect important du livre, laborieux dans le passage d'une langue à l'autre. Le formidable travail de traduction des œuvres grecques en langue latine complétait cet effort de transmission et d'inculturation. Il portait aussi sur les philosophes, avec Boès sur la philosophie d'Aristote. L'enjeu n'était autre, me semble-t-il, dans ce phénomène de traduction, que l'expérience de l'intelligibilité du mystère chrétien dans d'autres langues et d'autres cultures. Donc une grande œuvre nous est livrée aujourd'hui avec ce troisième tome. Elle soulève des questions de l'époque, mais qui ont une grande actualité, celle qui tourne autour de l'arianisme et de la médiation du Christ, et puis la question à travers le pélagianisme, la question de l'universalité, de la volonté universelle de salut en Dieu. Et pour terminer, je retiens une réflexion christologique pour aujourd'hui, qu'on pourrait intituler « Le lien entre christologie et théologie ». Toute cette élaboration christologique à travers les tomes, les quatre tomes de Michel Fédou, montre qu'on n'a jamais pu, à cette époque, penser la christologie indépendamment de la théologie. Or, aujourd'hui, il y a peut-être une scission qui mériterait d'être surmontée. La grande érudition de cet ouvrage, de ces ouvrages, permet de saisir dans les écrits particuliers des pères occidentaux une espèce d'oscillation qui affecte toujours le discours christologique à travers les âges. Je dirais une oscillation entre le fonctionnel sotériologique, ce que le Christ a fait pour nous, et puis son identité humano-divine, sa dimension ontologique. en mettant en cause la consubstantialité du Christ avec Dieu, ou en réduisant à l'inverse son humanité, c'est bien le rôle médiateur de la vie et de la personne du Christ qui se trouve méconnu, alors que les Écritures l'attestent amplement. Ce qui impressionne dans ce livre, en tout cas ce qui m'impressionne, il y a tellement de choses qui m'impressionnent, mais celle-là, c'est l'acharnement avec lequel les discours chrétiens s'entremêlent avec les rationalités d'une époque pour dire la révélation qu'ils trouvent dans les Écritures. Le défi a été, et est toujours, de savoir si dire que Dieu est le salut de l'homme est possible sans que l'homme en soit aliéné, mais au contraire magnifié. Et cela semble être d'autant plus clair que celui par qui ce salut arrive, Jésus-Christ, est selon les Écritures à la fois homme et Dieu. Mais il est un autre défi qui est de montrer que cette humanité de Jésus, thème très récurrent dans ce tome, que cette humanité de Jésus, en qui et par qui arrive le salut, n'en est pas moins celle de l'unique personne du Verbe. Toujours un défi à relever. Comme l'a rappelé le cardinal Lehmann dans une publication christologique à propos du concile de Nicée, le concile de Nicée a témoigné, par son rejet du système arien, que la confession au fond de l'Église à propos du Christ a résisté spirituellement à une altération par la pensée grecque. En luttant contre des solutions, et on voit bien que ça a été une lutte doctrinale et aussi linguistique, et puis politique. En luttant contre des solutions simplificatrices, le Concile ne reste pas seulement loyal à la tradition apostolique, mais il développe une conceptualisation originale de la foi. La préservation de la tradition apostolique ne s'obtient pas, disait le cardinal Lehmann, par une pure répétition de la Bible à Nicée, mais bien dans la réflexion sur la pleine dimension du sens de l'Écriture. Il ne faudra donc pas isoler le terme « homoousios » des autres énoncés de la confession de foi de Nicée et de l'affrontement dans la controverse arienne, et encore moins le comprendre uniquement en fonction de la terminologie ciblée spécifique de la réponse à donner à Arius. Avec ce terme se manifeste au fond une véritable structure linguistique des dogmes ecclésiaux, qui n'est pas tant d'abord puisée dans des concepts terminologiques figés, mais qui provient plutôt et en premier lieu des capacités d'expression ordinaires de la communauté de vie ecclésiale. Le père Sesboué disait à propos de Nicée qu'au fond c'était enfin, je ne sais pas s'il le disait, c'est moi le lisant qui ai compris ça. Il disait que c'était vraiment une conquête pastorale, l'homoousios. C'est-à-dire que c'était une tentative pastorale d'élaborer des choses avec une langue qui permettait de faire ce qu'elle pouvait faire à cette époque-là et dans une langue qui n'était pas encore très chrétienne. Ainsi, l'homoousios a-t-il, dans une certaine mesure, en dehors de toute sa portée dogmatique et spirituelle, le caractère d'une convention de langage pratique, une langue officielle au fond. Ce qui peut aussi en expliquer la réception ecclésiale au cours d'un processus séculaire. La formulation dogmatique bien comprise n'est donc pas en concurrence avec la formulation de l'Écriture, quoi qu'en pense Arius. Elle ne la remplace pas, elle n'a pas la prétention de mieux exprimer le signifié d'une manière plus complète ou adaptée à l'époque, elle veut simplement aider à comprendre dans la langue d'une époque et ses représentations l'Évangile. Le dogme, en ce sens, précisait le cardinal Lehmann, n'est pas un fondement, mais une interprétation de la révélation. Il reste dans l'ombre du kérigme, certes. Il cherche à le protéger, évidemment, et à le sauver des empiétements inconsidérés de la pensée humaine. Il reste pourtant indispensable dans cette fonction et donc insurpassable aussi dans les décisions particulières de l'Église. Ainsi, le témoignage biblique au Christ, grâce à la terminologie grecque, se maintiendra-t-il intact? C'est uniquement si le Fils est consubstantiel au Père et de même nature que lui que le monde est introduit vraiment dans la vie de Dieu. Sinon, Dieu resterait dans sa bienheureuse solitude et loin du monde. Donc Nicée a fondé une interprétation christique de la relation de Dieu au monde. Je voudrais terminer en insistant sur cet aspect et en relisant ce qui est dit dans ce tome et que je viens d'évoquer sur les formules dogmatiques à ce que disait Karl Rahner dans sa contribution au volume Chalcedon Gedankenband à propos de la compréhension de la formule chalcédonienne de 451. Il écrivait qu'en soi, ces décisions dogmatiques, qui marquaient d'une certaine manière la fin d'une controverse, c'est vrai, sont en même temps un point de départ et un début pour des réflexions théologiques nouvelles, une relance. Dans un contexte différent, il est vrai aussi, Heinrich Schlier formule les choses de la même manière, « Le dogme, je le cite, ne signifie pourtant pas la fin de la délibération, mais la montée des recherches, des réflexions, des vérifications, et encore des réflexions de fond sur l'événement mémorable, indéniable et inaltérable. » Fin de citation. De la lecture de ces volumes de Michel Flédou, je pense que nous sommes aidés à comprendre comment les pères ont balisé les étapes par lesquelles la christologie s'est constituée autour de la personnalité révélatrice de Jésus. En guise de conclusion, qui est une ouverture, je m'arrêterai là, il me semble qu'il y a, à la lecture de ces ouvrages, un défi pour aujourd'hui, non seulement celui de la médiation du Christ et la volonté universelle de salut de Dieu, mais il y a aussi la nécessité pour repenser aujourd'hui ce qu'ont fait les pères, le lien entre théologie et christologie. Alors que le discours christologique a pu, dans les siècles ultérieurs, après le 7e siècle, avoir une tendance à séparer théologie et christologie. Il faudrait sans doute aujourd'hui retrouver davantage le lien entre la théologie et la christologie, et sous l'aspect peut-être précis d'une théologie de la grâce. Comment le Christ est-il capable aujourd'hui de communiquer la grâce divine? Donc une théologie de l'Esprit-Saint. Seule une théologie de la grâce permet de tenir toutes les promesses d'une christologie qui manifeste la grâce du Christ. Et c'est sans doute un théologien comme Hans-Urs von Balthasar qui a probablement réussi à forger le concept adéquat qui permet de rendre audible l'analogia entis concrète dans une note discrète de sa théologie de l'histoire de 1950. Il y pose les fondements d'une analogie entre l'unicité du Christ et notre humanité multiple. Et je le cite, il dit « Si l'un d'entre nous est ontologiquement un avec le Verbe de Dieu et avec l'action rédemptrice de Dieu, il est par là même, en tant qu'il est cet unique, élevé au rang de norme de notre nature comme de notre histoire concrète. » Fin de citation. Ainsi, il me semble que l'historicité interne de la grâce du Christ ne résulte pas seulement de ce que le Christ nous manifeste le Père dans son existence temporelle et devient dans son humanité une expression ou le sacrement vivant de la vie trinitaire. Cette forme de christologie seulement expressive est insuffisante, me semble-t-il, si elle ne débouche pas sur une christologie pneumatique que l'apôtre Paul fait coïncider, lui, avec le don de l'adoption filiale, comme en Romains 8 ou en Galates 4. Autrement dit, les ambitions de la christologie aujourd'hui ne peuvent s'accommoder d'une justification métaphysique ou ontologique donnée dans le fait de l'union hypostatique. La christologie expressive de la manifestation de Dieu en Jésus-Christ a besoin d'être équilibrée, me semble-t-il, et c'est un programme de recherche par une théologie, monsieur le doyen, sacramentelle, et pneumatologique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une théologie de la grâce, ou pour le dire tout simplement, comme quand on écrit aux enfants, comment Jésus nous apporte aujourd'hui la grâce de Dieu. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir ainsi souligné l'actualité, on peut dire, de la réflexion des pères latins. Je retiens plusieurs questions qui sont venues, notamment leur souci du contexte, leur souci de l'élaboration d'un langage pour l'intelligence de la foi, la confrontation aux rationalités de l'époque, leur insistance sur l'humanité du Christ aussi, et puis cette question sur la médiation du Christ. Vous disiez, avons-nous encore besoin du Christ comme médiateur? C'est une question que se posent nos contemporains. Voilà. Et pour terminer, cette question que vous avez soulignée sur l'importance du lien entre théologie et christologie. Hein. Voilà, ce sont beaucoup de points importants, je crois. Je laisse la parole à Isabelle Baucher pour aussi qu'elle puisse nous partager sa lecture du livre de Michel Flédou.
Merci Étienne, merci aussi Michel pour ce beau livre que j'ai lu avec joie et qui couronne un long travail de recherche dont je suis le témoin depuis longtemps. Merci aussi pour notre collaboration depuis de très longues années. Et je suis heureuse de l'exprimer ce soir. Mon intention, j'essaierai de ne pas faire double emploi avec ce qui a été dit, mais bon, je vais me situer sur un plan plus, enfin, moins christologique et moins spécifiquement théologique. Mon intention est d'abord d'inscrire l'ouvrage dans le travail de recherche de Michel, parce qu'il me semble qu'il vient couronner tout un parcours. Et donc, c'est peut-être l'occasion de le montrer. Avant, bien sûr, de présenter l'ouvrage et d'en montrer l'intérêt. La recherche de Michel se développe au carrefour de plusieurs intérêts majeurs. La patristique, avec bien sûr un intérêt tout particulier pour Origène, et avec un souci qu'il habite toujours, en voir les intérêts pour la théologie contemporaine. Deuxième champ de recherche, le rapport aux autres religions, en particulier le judaïsme, et bien sûr pour l'Antiquité, le rapport aux religions païennes. Et bien évidemment, la théologie dogmatique, très spécifiquement la christologie, mais aussi la théologie trinitaire. Présenter ces différents champs de recherche, c'est en fait donner une clé aussi pour entrer dans l'ouvrage, c'est ce que je voudrais montrer brièvement. Les premiers travaux de recherche de Michel ont porté sur Origène, et je crois qu'il s'agit là vraiment de la matrice de ses travaux à venir, en tout cas de bien des travaux à venir. Le premier, Christianisme et religion païenne dans le contre-sens d'Origène, dit l'intérêt porté d'emblée au dialogue entre christianisme et religion païenne. Le second, auquel il a déjà été fait allusion, la sagesse et le monde, le Christ d'Origène, eh bien, est déjà centré sur le Christ à travers le thème de la sagesse chez Origène. J'ajoute aussi l'important travail que Michel a fait sur le commentaire sur l'épître aux Romains d'Origène, avec un intérêt tout particulier, il y a 4 tomes dans Sources chrétiennes, avec un intérêt tout particulier au commentaire originien de Romains 9 à 11, et donc qui pose bien évidemment la question du peuple juif. Mais un aspect qui est très marquant dans la manière dont Augustin aborde, dont Michel parle de patristique, c'est son souci toujours d'en voir l'impact sur la théologie contemporaine, pour la théologie contemporaine. Et je crois qu'ici, il est aussi à bonne école, je pense à l'intérêt qu'il a porté à l'œuvre d'Henri de Lubac et auquel il a consacré un livre. Mais je pense aussi au livre publié en 2013, « Les pères de l'Église et la théologie chrétienne », où Michel exprime 2 convictions fortes qui, à mon avis, sont au principe de ce livre. On ne peut se contenter d'une étude philologique, littéraire, historique des pères de l'Église, mais il faut à tout prix aller jusqu'à une intelligence de la foi. Et d'autre part, le théologien ne peut faire l'économie de la référence aux pères de l'Église. Je cite Michel, « Aujourd'hui, pas plus qu'hier, l'intelligence de la foi ne peut se passer d'une référence vivante aux écrits patristiques. » Et il continue en disant que la fréquentation des pères doit contribuer aux tâches de la théologie. Et je vous invite notamment à lire dans cette perspective le chapitre 13 de cet ouvrage, Patristique et théologie des religions, qui en fait annonce déjà très expressément, reprend les 3 axes qui ont été évoqués tout à l'heure sur la manière d'explorer la patristique, enfin, pour un travail de théologie, l'axe apologétique, l'axe dogmatique et l'axe de la spiritualité. Je n'y reviens pas puisque cela a été mentionné. Enfin, troisième grand champ de recherche de Michel, le Christ et les religions. Et je pense notamment, je vais simplement les nommer, aux 3 ouvrages suivants, les religions selon la foi chrétienne, les regards asiatiques sur le Christ, l'Église catholique et les autres croyants, mais aussi le collectif, le Fils unique et ses frères, unicité du Christ et pluralisme religieux, avec bien évidemment une contribution de Michel. Alors, cette présentation n'est pas du tout exhaustive, mais je pense qu'elle fait bien comprendre comment ces 3 volumes sur la voie du Christ couronnent toute une longue recherche, à la fois en patristique, en théologie des religions et en christologie. Bon, c'est vraiment un travail au long cours qui nous est présenté ici, puisque, bon, déjà, un gros travail, plus de 1800 pages, mais la publication s'est étalée sur 10 ans et la rédaction sur 15 ans, si j'ai bien lu ce qui est écrit dans le premier tome, puisque le premier volume a été commencé en 2001 et publié en 2006. Et je reviendrai à ce que dit le tome 1, le but de l'ouvrage. Rendre attentif à la genèse et au développement des théologies du Christ dans le contexte des traditions culturelles et religieuses du monde ancien. Évidemment, cette insistance sur le contexte des traditions culturelles et religieuses du monde ancien est très importante pour Michel et permet, à mon avis, de mieux saisir aussi, même s'il s'agit du monde ancien, les enjeux contemporains d'un tel travail de théologie contextuelle. Parce que, précisément, il s'agit aujourd'hui de s'interroger sur le rapport du christianisme aux religions du monde dans le contexte actuel. Et ce que note Michel dès ce tome 1, dès l'introduction du tome 1, c'est que ces débats de l'époque patristique nous ont rendu sensibles au rapport entre chrétiens et juifs tout au long de l'histoire, et vous verrez si vous lisez cet ouvrage que c'est le rapport au judaïsme y tient une place importante, avec un souci très nettement marqué de relever tout ce qui a pu donner lieu à des dérives vers l'anti-judaïsme et le souci de Michel de resituer cela dans son contexte pour éviter malgré tout une lecture anachronique. Et d'autre part, un deuxième aspect, c'est dans le contexte du développement des théologies dites pluralistes, eh bien, il importe de réfléchir à nouveau sur la singularité du christianisme parmi les religions du monde. Et plus précisément, et ça a été très bien développé avant moi, sur la portée de la foi en Jésus de Nazareth, confessé comme le Fils unique, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Sauveur de tous les hommes. Et donc, la question centrale, me semble-t-il, de ces trois volumes, et donc du dernier aussi que nous présentons ce soir, c'est comment rendre compte dans la situation d'un monde plurireligieux, de la foi en Jésus de Nazareth, confessé comme unique. Alors, dans cette perspective, on comprend mieux ou bien le choix du titre « La voix du Christ ». Et je voudrais m'arrêter un peu à ce titre et peut-être inviter Michel à approfondir le choix de ce titre. Pour le concrétiser, il me semble que le volume 3 nous donne quelques éléments qui nous permettent de saisir le choix de ce titre, notamment les pages auxquelles il a été fait allusion à propos de la controverse sur l'autel de la victoire. Et je voudrais entrer un peu dans quelques détails, simplement pour donner envie de saisir aussi la chair de l'ouvrage, pas simplement les grandes affirmations christologiques. Donc, si Mac écrit « Tout ce que les hommes adorent, il est juste de considérer que c'est un seul et même être. Nous contemplons tous les mêmes astres, le ciel nous est commun, le même univers nous entoure, qu'importe la philosophie par laquelle chacun cherche la vérité. » Et il conclut « Un seul chemin ne suffit pas pour accéder à un si grand mystère. » Et donc, vous comprenez bien que dans cette perspective, il estime que les secours mystérieux de toutes les religions doivent nous venir en aide. À cela, Ambroise rétorque dans la lettre 18. Bon, il cite Symmaque. On ne saurait, dit Symmaque, arriver par un chemin unique à un si grand mystère. Et suite d'Ambroise, ce que vous ignorez, vous, nous l'avons appris, nous, de la bouche de Dieu. Ce que vous cherchez par des conjectures, nous en possédons la certitude, reçue de la sagesse et de la véracité de Dieu. Nos méthodes sont donc en plein désaccord. Et Michel commente ainsi ce débat. Alors que la phrase de Symmaque exprimait avant tout son sens du mystère, Ambroise y voit d'abord l'aveu d'une ignorance, celle-là même à laquelle la révélation chrétienne a justement mis fin. Et il montre très bien les enjeux du débat. Bon, apparemment, premier enjeu, c'est la tolérance en matière de religion. Mais Michel montre bien que la tolérance n'est peut-être pas là où on croit, enfin, ou plus exactement, que les propos de Symmaque pourraient être interprétés dans le sens d'une tolérance. Mais en réalité, dans la mesure où l'autel de la victoire était l'autel devant lequel tous les sénateurs devaient prêter serment, ce que bien sûr les chrétiens ne pouvaient faire, vous comprenez bien qu'il s'agissait au contraire de demander la restauration d'un rite ancestral et donc d'un rite païen. Donc ce n'était pas un problème de tolérance. L'autre enjeu, c'est la vérité en matière de religion. Et Symmaque justifie la pluralité des cultes par l'ignorance insurmontable de l'homme. Ambroise lui oppose la certitude de la révélation et son unicité. Et donc on voit bien deux lignes de réflexion qui s'opposent, et ça me semble vraiment intéressant parce qu'on pourrait sans doute transposer les choses mutatis mutandis aujourd'hui. Alors il y a un autre passage du livre qui me semble bien éclairer ce choix du titre, La voix du Christ. C'est les pages, les longues pages que Michel consacre à juste titre à la Cité de Dieu, notamment au livre 10 de la Cité de Dieu, cet admirable texte d'Augustin, où Augustin explique comment le Christ est la voie universelle du salut que toute l'histoire a prophétisé, enfin toute l'histoire biblique a prophétisé. Et Michel note également, et ça me semble intéressant, parce que précisément c'est ce débat qui intéresse Michel, je crois, c'est que le point de départ de ce développement d'Augustin sur la voie universelle du salut, qui est le Christ, c'est une citation du De Regressu Animi de Porphyre, sur le retour de l'âme de Porphyre. Et ce texte, évidemment, montre que le thème de la voix était un thème important pour les païens. Et pour Porphyre, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour Augustin, et c'est évidemment intéressant à souligner, puisque ce que cherche Porphyre, en toutes lettres, c'est la voie universelle de la libération de l'âme. Et bien évidemment, il ne se préoccupe pas de la libération du corps, mais et il cherche, quand il cherche une voie universelle, il veut en fait une voie qui puisse délivrer l'âme de tout homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa nation, mais aussi, et c'est sans doute le sens de ce texte de Porphyre, quelle que soit son aptitude à la philosophie, puisqu'il pensait bien que la philosophie était réservée en fait à une élite. Alors Porphyre a incontestablement cherché cette voie vers Dieu, vers la béatitude, on en trouve beaucoup d'indices dans le reste de son œuvre. En revanche, il est bien improbable, contrairement à ce que dit Augustin, mais à mon avis Augustin le sait aussi, qu'il ait pensé qu'une telle voie universelle du salut existe. Et évidemment, tout l'art d'Augustin, l'art apologétique d'Augustin, c'est de tirer parti de cette sorte d'aveu de Porphyre, il n'a pas trouvé la voie universelle du salut, pour dire qu'en fait, Porphyre, et ça c'est bien évidemment pas ce que pensait Porphyre, ne doutait pas que cette voie existait, mais il n'en avait pas encore eu connaissance. Et d'une certaine façon, Augustin arrive en disant, c'est un peu comme Paul dans le discours de l'Areopage, cette voie universelle de salut que Porphyre cherchait, la voici, c'est le Christ, et prophétisé par toute l'histoire biblique. Alors il me semble, ces deux exemples qui me semblent importants dans l'ouvrage dans ce tome 3 montrent bien la raison d'être du choix de ce titre, La voix du Christ. Mais je me suis posé une question en lisant le volume. Cette thématique ne me semble pas aussi importante chez les autres auteurs. Dans quelle mesure est-elle représentative de l'ensemble des auteurs? Je me suis demandé aussi, mais ce n'est qu'un prolongement, je n'ai pas de réponse moi-même, mais comment interpréter la si grande importance de ce thème de la voix chez Symmaque, chez Porphyre? Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Et bien évidemment, alors si on réfléchit aujourd'hui, on pourrait se dire que cette thématique de la voix mérite encore d'être poursuivie et d'avoir une fécondité dans le débat avec d'autres religions ou sagesses. Je pense bien évidemment très particulièrement au taoïsme, qui se présente aussi comme l'enseignement de la voix. Et donc là, peut-être qu'il y a des suggestions intéressantes à approfondir. Après avoir ainsi réfléchi de cette manière sur le titre, je voudrais dire qu'un des grands mérites de l'ouvrage, et ça a déjà été dit avant moi, c'est d'être un peu comme une initiation à la patristique latine. Bien évidemment, sous un biais particulier, qui est la christologie, les développements christologiques, dans leur rapport au contexte religieux de l'Antiquité tardive. Alors, je m'explique un peu. Pourquoi une sorte d'initiation à la patristique latine? Eh bien, dans la mesure où Michel a le souci de présenter de façon claire et méthodique chacun des auteurs qu'il présente, en le resituant dans son contexte historique et culturel de façon précise. L'ouvrage n'a donc rien de désincarné, et donc il se lit de façon très agréable. On se plonge en pleine histoire. Et je prends volontairement, enfin je choisis un exemple, l'exemple de Cassien, dont on pourrait se demander pourquoi il a une place dans l'ouvrage. Je choisis volontairement un auteur dont la contribution christologique n'est pas majeure. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de la tonalité de l'ouvrage. Bon, Cassien a bien écrit un traité sur l'incarnation du Seigneur qui était destiné à réfuter la Christologie de Nestorius. Mais en fait, il est beaucoup plus connu par ses autres ouvrages, les institutions cénobitiques et les conférences. Et Michel s'intéresse à ses autres ouvrages avant d'en venir au traité proprement christologique. Parce qu'il veut montrer, et il le fait admirablement, comment, par son existence même et par ses écrits, Cassien fut un véritable passeur entre Orient et Occident, transmettant à celui-ci l'expérience du monachisme égyptien, tout en lui apportant sa marque personnelle. Et il choisit dans cette perspective un exemple très significatif, qui est celui de la 10e conférence, qui est consacrée au thème de la prière, et qui nous donne un écho de la controverse origéniste. La question concrète qui est posée est la suivante, est-ce qu'il est possible ou non de se représenter la divinité? Et vous avez deux positions en présence, celle des moines qui pensent que Dieu est corporel et a une forme humaine, et bien sûr leurs adversaires les appellent des anthropomorphites, et puis celle de ceux qui affirment au contraire que Dieu est incorporel et qui invoquent en ce sens l'autorité d'Origène. Et Michel prend le temps d'expliquer cette controverse et de montrer en particulier comment cette dernière thèse qu'on attribue ici à Origène, en fait, telle qu'elle est développée et telle qu'elle est discutable, est en fait la thèse des Vagres, dans ses Cephalaia Gnostica. Et il montre bien comment Cassien opère un discernement. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette controverse, je vous laisse lire l'ouvrage. Mais évidemment, on pourrait se demander quel rapport y a-t-il entre la présentation de cette controverse et puis la christologie. Eh bien, d'une certaine façon, on pourrait penser que les anthropomorphites pouvaient s'autoriser de la doctrine relative à l'incarnation. Mais en réalité, seule l'humanité de Jésus peut être représentée, non sa divinité. Et ici, Michel va expliquer l'exhortation de Cassien à ne pas considérer seulement l'humilité de la chair, mais à s'élever avec les disciples sur la montagne jusqu'à la contemplation du Christ en sa divinité, une contemplation purement intérieure, au-delà de toute représentation corporelle. Alors, cet exemple que j'ai un peu simplifié vous montre comment Michel a le souci de dégager les enjeux christologiques d'une controverse qui ne paraît pas immédiatement liée à la christologie. Cela vous montre aussi sa manière de mettre en évidence le contexte historique, social, culturel, ce qui est évidemment très précieux pour un lecteur qui ne connaît pas bien la période ou l'auteur. Et c'est en ce sens que l'ouvrage me paraît une excellente initiation à la patristique. Et l'ouvrage a bien sûr toutes les qualités qu'on attend d'une telle initiation. La clarté, le souci pédagogique. Je dirais que la démarche de Michel est toujours limpide. Même les points les plus délicats et les plus difficiles sont exposés avec une extrême clarté. Je pense par exemple à la présentation de la doctrine de Marius Victorinus, qui est loin d'être la chose la plus simple qui soit. J'ai admiré aussi le choix de citations proposées par Michel. On pourrait presque parler d'anthologie par la beauté de ces citations. Et je vous invite, je pense que je n'ai pas vraiment le temps de les lire, mais j'en avais fait une petite sélection, mais de citations relatives au Christ, extraites des sermons de Léon. des textes que l'on ne connaît pas nécessairement, sermon pour l'Épiphanie, sermon pour Noël, etc. Troisième qualité pour moi très importante de l'ouvrage, c'est le souci de donner des repères pour un discernement nuancé. Et je voudrais ici relever deux points. D'abord, ce que Michel dit du rapport à des positions que l'on est tenté de qualifier d'hérétiques. Et je vais choisir la présentation que Michel fait du traité de Facundus Dermian pour la défense des trois chapitres. Et donc, je l'expose un petit peu, mais c'est une manière aussi de vous faire entrer dans la chair du livre. Le but de Facundus, c'est de montrer à Justinien qu'une contradiction des trois chapitres est contradictoire avec sa volonté de respecter Chalcédoine. Et Facundus feint de considérer Justinien non comme un adversaire, mais comme un juge impartial. Or, dans le livre 12, Facundus cherche à déterminer ce qui autorise ou non à qualifier une doctrine comme hérétique. Et ce qu'il explique, c'est que ce qui fait l'hérétique, ce n'est pas le fait d'ignorer telle ou telle vérité. C'est plutôt la défense obstinée de l'erreur. Je cite, « On ne doit appeler hérésie que la contradiction entêtée des orgueilleux qui s'interdit de penser autrement qu'elle pense et, même avertie, refuse d'acquiescer à la vérité. Ou encore, qui préfère avec obstination être séparé de l'Église ou s'y cacher par tromperie plutôt que de changer une opinion erronée. » C'est page 470 dans le livre. Évidemment, sur un tel fondement théorique, Facundus Dermian peut affirmer avec force que ni Théodore, ni Ibas, ni Théodoret ne peuvent être considérés comme hérétiques. Et je note que Michel revient à Facundus Dermian dans sa conclusion, en soulignant l'importance d'une attitude comme la sienne, page 579. J'évoque enfin le discernement proposé par Michel à propos des positions des pères qui peuvent nourrir l'antijudaïsme. Michel donc montre bien qu'il faut éviter l'anachronisme, tout en regrettant les dérives dramatiques occasionnées par telle ou telle doctrine, et notamment la doctrine du peuple juif comme nation témoin. Et voilà ce que Michel en dit, c'est page 581. Cette doctrine, qui en un sens reconnaissait un statut à ce peuple, les Juifs rendant eux-mêmes témoignage du fait qu'ils conservaient les écritures anciennes dans diverses régions de la terre, mais dont on se servirait ultérieurement pour légitimer l'infériorité des Juifs, voire même pour justifier des mesures d'expulsion à leur égard. Et là, vous avez une mise en garde de Michel. La théologie chrétienne doit être aujourd'hui consciente de ces dérives dramatiques. Il lui faut en conséquence refuser toute forme d'antijudaïsme qui, d'une manière ou d'une autre, reviendrait à cautionner de telles dérives. Mais elle ne peut pour autant renoncer à lire les Écritures du Premier Testament à la lumière du Christ qui les a portées à leur accomplissement. Et c'est sur ce dernier point que l'exégèse de Jérôme, d'Augustin ou de bien d'autres pères continue d'apporter une contribution essentielle à la christologie. Je voudrais enfin ouvrir une dernière piste en soulignant que Michel ne se contente pas du tout, et je l'ai déjà évoqué, de citer des textes appartenant à des traités théologiques, mais qu'il montre à très juste titre l'apport de la prédication. Et en particulier pour des auteurs comme Cassiodore, César d'Arles, Grégoire. Alors, évidemment, moi, ma petite question, mais je comprends bien que Michel n'ait pu le faire, ma petite question, c'est que ce n'est pas le cas pour Augustin. C'est que finalement, évidemment, l'ampleur d'Augustin fait que Michel a dû faire des choix, et tout en soulignant l'importance des commentaires des psaumes, hein, qui présentent toute cette doctrine du Christ total, Michel a renoncé, en fait, à exposer la christologie qui se dégage de la prédication augustinienne. Bon, et il le justifie en disant que son but est d'abord d'étudier la réflexion christologique dans le cadre d'un certain nombre de débats. Alors je voudrais simplement, parce qu'il me semble que ça pourrait peut-être élargir parfois la perspective, souligner l'intérêt qu'il pourrait y avoir à utiliser certains sermons d'Augustin, et je pense très particulièrement à des sermons qui sont peut-être encore assez peu connus, faute de traduction française dans un volume unique. Ce sont les sermons découverts par François Dolbeau de façon récente. Et je vais donner simplement deux exemples, le sermon Dolbeau 22 et le sermon Dolbeau 26. Page 437, Michel Fédou cite un extrait de la préface de Cassiodore à son exposition in Psalmos, où Cassiodore présente les trois manières de parler du Christ. Or, en fait, ces trois manières de parler du Christ sont un héritage direct d'Augustin, précisément du sermon Dolbeau 22. Je lis simplement brièvement ce texte. Autant que nous avons pu le remarquer dans les Saintes Écritures, le Christ est désigné de trois façons dans l'enseignement de la loi et des prophètes, des lettres des apôtres ou des événements dignes de foi que nous connaissons par l'Évangile. La première façon le montre comme Dieu, dans sa divinité égale et coéternelle à celle du Père, avant qu'il n'assume la chair. La seconde façon est celle par laquelle, en lisant, on comprend qu'il est, une fois la chair assumée, Dieu en même temps qu'homme et homme en même temps que Dieu, dans l'excellence qui lui est propre, par laquelle il l'emporte sur les autres hommes et est médiateur et tête de l'Église. La troisième façon est celle par laquelle on le présente aux croyants et on l'offre à reconnaître aux hommes compétents comme étant en quelque sorte le Christ total dans la plénitude de l'Église, c'est-à-dire la tête et le corps, selon la plénitude de l'homme parfait, homme parfait dont nous sommes les membres. Et bien sûr, il ne s'agit là que de l'introduction et ensuite Augustin développe toute une argumentation scripturaire pour fonder ces trois manières de parler du Christ. Et du coup, la règle à appliquer dans la lecture de l'Écriture. L'autre exemple, mais je ne vais pas citer les textes ici, c'est le sermon d'Olbeau 26, que Michel connaît certainement, qui est un très beau sermon, très long sermon, certainement au moins 2 heures, prononcé à l'occasion des calendes de janvier. Un sermon contre les païens, mais Augustin prend à partie directement les païens, ceux qui bien sûr s'enivrent à l'occasion des calendes, mais aussi ceux qui prétendent avoir un culte plus spirituel, parce que ce ne sont pas des statues qu'ils adorent, mais ce dont elles sont le signe. Et nous avons dans ce texte d'admirables développements sur le rôle du Christ comme seul vrai médiateur, qui s'est déjà fait connaître à des païens, comme Melchisédek, comme Job. Et ici, je vous en renvoie très particulièrement au paragraphe 38 du sermon d'Olbeau 26. Bon, à vrai dire, cette suggestion est tout à fait secondaire. C'est simplement une manière de vous inviter aussi à lire les sermons d'Augustin. Mais je voudrais terminer en rappelant à quel point ce livre rendra un immense service à de très nombreux lecteurs, qu'ils soient déjà des théologiens confirmés ou qu'ils soient des chrétiens désireux de mieux connaître l'apport de l'Occident latin à la réflexion christologique. Et en conclusion de son ouvrage, Michel souligne le défi de la transmission. Et il me semble que Michel relève parfaitement ce défi et que nous pouvons l'en remercier.
Merci beaucoup Isabelle pour cette lecture qui nous a permis, je crois, un peu d'entrer dans la manière de travailler de Michel Fédou et ce faisant de nous le faire goûter un peu. Voilà. Et puis j'ai trouvé vraiment intéressant d'avoir resitué ces ouvrages dans le travail d'ensemble de Michel Fédou avec notamment cet axe de recherche autour de la question de on pourrait dire comment parler de l'unique dans un monde marqué par la pluralité. C'est peut-être un trait qu'on a aussi en commun entre l'Antiquité et aujourd'hui, hein, avec notamment cette question de la tolérance, du rapport entre tolérance et vérité. Voilà, une question aussi très actuelle. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Michel, eh bien, à toi la parole.
Merci beaucoup. Mes premiers mots sont bien sûr des mots de grande gratitude. D'abord pour vous tous, hein, qui m'avez fait l'amitié de venir ce soir. Pour Étienne Grieux, qui a pris l'initiative d'organiser cette soirée. Et tout spécialement, bien sûr, pour Jean-Louis Soulty et Isabelle Bochet. Il est pour moi très heureux de voir ainsi réunis autour de mon ouvrage un spécialiste de christologie contemporaine, Jean-Louis, et une patrologue spécialiste d'Augustin, et avec qui, en effet, j'ai particulièrement travaillé depuis un certain nombre d'années. Donc merci beaucoup pour votre lecture si attentive de ce que j'ai écrit, et merci pour les réflexions que vous nous avez partagées ce soir. Jean-Louis, merci d'avoir identifié des enjeux pour aujourd'hui, autour de la médiation du Christ, autour de la volonté universelle de salut, autour du lien entre christologie et théologie, comment le Christ est capable de communiquer la grâce. Puis merci Isabelle, de fait, d'avoir donné un ensemble de clés de lecture, je crois, importantes pour la compréhension de ce livre. Un merci particulier pour les travaux d'Isabelle sur Augustin, car je suis très redevable à Isabelle, en particulier pour ses travaux concernant les débats entre Augustin et Porphyre. Mais je voudrais ajouter aussi que cet ouvrage est redevable à beaucoup d'étudiants du Centre Sèvres, à qui j'ai eu l'occasion d'enseigner la christologie, la théologie trinitaire, à qui j'enseigne encore la christologie, la théologie trinitaire, et je crois que les réactions, les questions de ces étudiants, leurs travaux, ont très souvent stimulé ma propre recherche. Alors ce qui m'incombe maintenant, c'est d'essayer en effet de dire quelque chose de ce qui m'a le plus tenu à cœur dans la rédaction de ces volumes de Christologie patristique. Et il m'est venu à l'esprit de le faire en reprenant simplement quelques thèmes, quelques convictions centrales de mon ouvrage. Il m'a semblé que je pouvais rapidement ordonner ces thèmes ou ces convictions autour des trois mots que nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, lorsque Jésus dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Je suis la voie. C'est l'occasion donc d'en dire un peu plus sur ce mot qui est présent dans le titre même de chacun des volumes. De fait, comme cela a été très très bien dit par Jean-Louis et par Isabelle, au point de départ de ma recherche, il y a un questionnement contemporain. Dans le monde pluriel, pluraliste qui est le nôtre, comment les communautés chrétiennes peuvent-elles rendre compte de ce qui se présente apparemment comme une voie parmi d'autres, mais en même temps, selon la foi de ces communautés chrétiennes, c'est néanmoins une voie tout à fait unique entre toutes. Et c'est en fonction de cette question que j'ai d'abord exploré la littérature chrétienne des 2e et 3e siècles. N'oublions pas que les premiers chrétiens étaient parfois présentés comme adeptes de la voie, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2. Donc tout naturellement, je me suis d'abord attaché au 2e et 3e siècle, cette période où le christianisme était non seulement minoritaire, mais souvent contesté, parfois même persécuté. Une période où les apologistes devaient précisément tenter de dire ce qui, dans le monde de leur temps, et malgré la forte présence de pratiques, de croyances héritées de l'Antiquité, malgré la forte présence aussi de nouvelles formes de religiosité, bien les apologistes devaient essayer de dire ce qui faisait à leurs yeux l'importance unique de la voie révélée par Jésus. Pour la petite histoire, sachez que j'ai commencé la rédaction de ce livre par le chapitre sur Clément d'Alexandrie, dont l'œuvre est exemplaire à mes yeux, parce que cette œuvre allie un sens aigu de l'unicité du Christ et de la diversité des voies, des chemins par lesquels le Verbe de Dieu se communique dans l'histoire de l'humanité, au point que Clément d'Alexandrie n'hésite pas à dire que peut-être la philosophie a été donnée aux Grecs comme un équivalent de la loi pour les Juifs. Mais de là, bien sûr, j'ai interrogé les autres écrits du 2e et du 3e siècle, avec le souci de montrer que les pères de cette époque n'ont pas simplement défendu leur foi contre les objections de leurs contradicteurs, mais que leurs débats même avec les autres croyants ont été pour eux l'occasion de progresser dans leur intelligence du Christ. Et cette perspective est demeurée la mienne dans les deux volumes suivants, consacrés au siècle suivant de l'époque patristique. Certes, le mot « voix », le terme « voix » n'est pas forcément employé à chaque page. De fait, Augustin est l'un de ceux qui recourt le plus, d'autres ne l'utilisent pas ou l'utilisent peu. Certes aussi, ce qui a le plus souvent retenu l'attention des théologiens dans la christologie de ces 4e, 5e siècles, ce sont les controverses sur l'identité du Christ et les conciles auxquels ces controverses ont donné lieu, avant tout le concile de Chalcédoine. Mais ce que j'ai tenté de faire, quant à moi, ce n'est pas d'abord une nouvelle histoire du dogme christologique, mais j'ai voulu surtout montrer, là encore, comment les débats, les discussions des chrétiens avec d'autres leur ont permis, au IVe siècle et dans les siècles suivants, de préciser l'originalité de la voix du Christ dans les contextes culturels et religieux de leur temps. Et cela, en effet, dans toutes les régions du monde alors connues, depuis l'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure, jusqu'à l'Arménie, la Perse et même la Chine, où des missionnaires nestoriens parvinrent dans le courant du VIe siècle. Et puis, pour ce qui est de l'Occident, eh bien, depuis l'Italie jusqu'à l'Afrique du Nord, l'Espagne, les îles britanniques. Alors pour cela, je devais de fait me rendre attentif aux discussions des pères de l'Église avec les Juifs. Je devais me rendre attentif à leurs débats avec cette nouvelle religion du manichéisme qui était née au IIIe siècle. Et surtout, je devais me rendre attentif aux débats, aux discussions avec les diverses formes de croyances, de sagesse, de philosophie qui se présentaient comme autant d'alternatives par rapport au christianisme. Il faut réaliser que le néoplatonisme en particulier, à partir d'une certaine époque, a constitué une alternative majeure par rapport au christianisme, d'où l'intensité des débats entre chrétiens et philosophes néoplatoniciens. Alors c'est cette perspective, c'est cet axe central qui a en quelque sorte inspiré un certain nombre de mes choix. Par exemple, dans le volume sur l'Orient grec, pourquoi ai-je donné tant d'importance à Eusèbe de Césarée, à Théodorée de Cyre ? Ce ne sont pas les auteurs dont on parle le plus, généralement, dans les ouvrages de christologie. Je l'ai fait parce que ce sont des auteurs qui ont justement eu à cœur de dire quelque chose de l'originalité, de la singularité de la voix du Christ dans le contexte de l'histoire religieuse, culturelle de leur temps ou des siècles passés. L'axe que j'ai décrit un instant éclaire aussi des choix que j'ai faits en particulier à propos d'Augustin. Pour ce volume sur la christologie latine, mon problème, c'est qu'il y avait le massif augustinien. Alors, il ne fallait pas qu'Augustin envahisse tout volume, mais il fallait quand même lui donner une part très importante. Mais même cela étant dit, je devais faire des choix considérables. Et c'est très clair que d'autres textes auraient pu être convoqués, en particulier, en effet, parmi les sermons d'Augustin. Mais l'axe central de ma recherche, c'était essayer de dire comment les débats même d'Augustin avec les Juifs, les Manichéens, les néoplatoniciens, etc., ont été pour lui des occasions majeures d'élaboration de sa propre christologie. Alors, naturellement, ces choix que j'ai faits ne m'ont pas empêché de traiter aussi des controverses internes au monde chrétien, les fameuses controverses avec Nestorius, avec Eutychès, etc. Mais là encore, j'ai voulu le faire sans perdre de vue ma question de fond. J'ai essayé de suggérer que ces débats, même s'ils furent historiquement en quelque sorte internes au monde chrétien, eh bien ce sont des débats qui ont des enjeux importants pour une réflexion christologique qui, aujourd'hui même, essaierait de penser l'union de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ. Car je pense que c'est bien à de tels enjeux que nous renvoient certaines questions dans le contexte de notre époque. Pour ne donner qu'un exemple parmi d'autres, une théologie chrétienne en débat avec l'hindouisme ne peut pas simplement présenter Jésus comme une manifestation du divin parmi d'autres, ou un avatar parmi d'autres, mais une théologie chrétienne doit essayer de montrer ce qui fait, du point de vue chrétien, la singularité, l'unicité de la relation entre Dieu et l'homme en Jésus. Et je pense justement que la christologie patristique, jusque dans ses débats les plus intenses et les plus spéculatifs, est pleine de ressources pour nous aider à penser cela. Alors ce que je viens de dire autour de la voix du Christ a déjà introduit en fait le deuxième point que j'annonçais. Jésus ne dit pas simplement « je suis la voix », mais je suis la vérité. Je suis la vérité. Et c'est vrai que mon ouvrage n'a pas seulement pour but de montrer comment les pères ont essayé de justifier le bien fondé de la voix du Christ dans le contexte de leur temps, mais j'essaie de montrer comment les pères ont eu à cœur de rendre compte de la vérité qu'ils reconnaissaient à l'enseignement du Christ, la vérité qu'ils reconnaissaient à son œuvre et plus que tout à sa personne même. Et ils ont souligné que cette vérité du Christ avait une portée pour tous. Non point certes au sens où des hommes ignorant le Christ ne pourraient pas être bénéficiaires des dons de Dieu et de son salut, mais au sens où l'offre universelle de ce salut est elle-même liée à l'événement unique de l'incarnation et du mystère pascal. C'est une question absolument centrale qu'un certain nombre de pères de l'Église ont prise à bras le corps. Alors, que les pères de l'Église aient eu un tel souci de la vérité à propos du Christ, on en a bien sûr un témoignage évident à travers les grandes controverses christologiques qui ont marqué l'Orient à partir du 5e siècle. Mais il y aurait un risque important qui serait de laisser entendre que la christologie latine, elle, est beaucoup moins importante de ce point de vue. Soit que les latins n'aient guère fait que reprendre à leur compte les élaborations christologiques de l'Orient, soit que, à partir d'Augustin surtout, leurs controverses sur la grâce les aient conduits en quelque sorte à reléguer à l'arrière-plan les questions touchant l'identité du Christ. Or, ça a été vraiment l'un des objectifs majeurs de mon travail dans ce troisième volume. J'ai tenté de montrer que cette impression doit être largement corrigée. D'une part, en effet, l'importance de la christologie d'Hilaire de Poitiers au IVe siècle, qui, dans un tout autre langage que le langage ultérieur des conciles christologiques, témoigne d'un effort de pensée remarquable pour rendre compte de la vérité du Christ, eh bien, cette importance doit être, à mon sens, tout à fait soulignée aujourd'hui. Autre fait que j'ai particulièrement souligné, l'invention théologique d'Augustin. Augustin qui, notamment dans sa lettre 137 à Volusianus et par son intervention auprès du moine gaulois Leporius, Augustin anticipe dans une large mesure sur la formule chalcédonienne de l'union des deux natures dans l'unique personne du Christ. Et enfin, j'ai souligné l'apport décisif de l'évêque de Rome, Léon. On sait que Léon a indirectement contribué à la définition du concile de Chalcédoine, le fameux tome à Flavien, mais j'ai essayé de montrer que, avant même la controverse avec Eutychès, Léon avait su défendre la vérité du verbe fait chair et les propriétés relevant de sa nature humaine, tout en affirmant que cette nature humaine ne devait être aucunement séparée de la nature divine du Christ, l'une et l'autre étant unies dans une seule et même personne. Et donc, la christologie latine a contribué beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire à la réflexion sur la vérité du Christ. Et il m'a paru en outre de plus en plus évident que les controverses même des latins sur les questions touchant la grâce et le libre arbitre, ces controverses même, loin de reléguer la réflexion christologique à l'arrière-plan, ont au contraire reflué sur ces questions, sur cette réflexion christologique. Et cela aussi, je crois, contribue à faire la richesse de cette christologie latine. Alors, je suis certes conscient du fait que aujourd'hui, nous n'avons pas le même rapport à la vérité que les anciens. Même s'il faut éviter de céder ici à quelque anachronisme, nous sommes aujourd'hui légitimement heurtés par la forme polémique de certains écrits des pères de l'Église. Et plus encore, nous sommes légitimement heurtés par l'attitude d'exclusion qui a été manifestée, surtout dans la seconde moitié de l'époque patristique, l'attitude d'exclusion qui a été manifestée par certains chrétiens par rapport à d'autres qui étaient considérés comme hérétiques. Isabelle y a fait allusion en rappelant justement mon analyse de l'œuvre de Facundus Damian, cet évêque africain qui réagit précisément contre cette manière de traiter les prétendus hérétiques. Tout cela est vrai, et il est clair que le théologien aujourd'hui se doit de prendre distance par rapport à ce qui, dans la forme même du langage parfois tenu contre des chrétiens dissidents, nous paraît désormais inacceptable, tout simplement au regard des valeurs éthiques, et en tout cas au regard de l'Évangile lui-même. Mais je suis non moins conscient du risque inverse. Le risque inverse qui serait de délaisser, pour cette raison même, les apports fondamentaux des pères de l'Église à la connaissance du Christ. On ne peut pas dire simplement que les controverses du passé tenaient seulement à des malentendus. Je crois que cela ne respecterait pas la conscience que les pères de l'Église avaient de devoir rendre compte, avec le plus de justesse possible, du mystère de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Alors, il faut absolument s'efforcer aujourd'hui de dissiper les équivoques. Il faut s'efforcer de montrer qu'il doit y avoir place aujourd'hui, beaucoup plus qu'on ne l'a cru jadis, pour une pluralité de langage à propos du Christ. Mais nous ne sommes pas pour autant dispensés d'un discernement sur ce qui fait l'authenticité, la justesse de tel ou tel langage à propos du Christ. Or, c'est bien de ce souci d'authenticité, de ce souci de justesse, que témoigne, par exemple, un Cyrille d'Alexandrie, lorsqu'il explique qu'on ne peut pas tenir simplement une conjonction extérieure entre Dieu et l'homme en Jésus-Christ. C'est ce dont témoigne aussi un Léon le Grand, lorsqu'il explique qu'à l'inverse, l'union de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ n'autorise pas à penser pour autant une pure et simple absorption de l'humanité par la divinité, etc. Et je crois que la christologie demeure de ce point de vue exemplaire, elle demeure une ressource essentielle pour la tâche qui est la nôtre de poursuivre justement l'intelligence, ce travail d'intelligence de la vérité du Christ. C'est en tout cas une conviction qui n'a cessé de m'habiter dans la rédaction de l'ouvrage. Jésus, enfin, dans l'évangile de Jean, dit de lui-même, non seulement « je suis la voie et je suis la vérité », il dit « je suis la vie ». Et en terminant, je voudrais dire que mon ouvrage essaye là encore de montrer comment la christologie patristique, à sa manière, honore cette troisième dimension. La christologie patristique, en effet, ne se présente pas simplement comme une doctrine, ou plus exactement, elle est constamment portée par un sens aigu, profond, de la vie qui est offerte par le Christ dans le présent de l'histoire. Je pense que c'est à cet endroit, plus que partout ailleurs, que la christologie est inséparable d'une théologie de l'esprit, d'une pneumatologie. Cette vie du Christ, pour les pères, elle se transmet d'abord à travers la lecture qui est faite de l'Écriture sainte, une lecture dans l'esprit du Christ. Cela se vérifie aisément à travers des auteurs comme Irénée, Origène, Jérôme ou Augustin. Et j'ai voulu souligner, à la suite du père de Lubac, l'importance toute particulière de l'exégèse d'Origène qui, grâce aux traductions de Jérôme et de Ruffin, a pu avoir par la suite une remarquable postérité dans l'Occident latin. La lecture des Écritures, pour les pères de l'Église, est comme telle une expérience de la vie du Christ. Le Christ qui se rend présent parmi ceux et celles qui se laissent guider par lui dans l'intelligence des livres saints, comme jadis les disciples sur la route d'Emmaüs. La vie du Christ, pour les pères, se transmet aussi à travers l'expérience multiforme des chrétiens, pas simplement la lecture de l'Écriture, mais l'expérience multiforme des chrétiens, que ce soit à travers leur vie ecclésiale, et notamment sacramentelle, ou plus largement, à travers le témoignage d'une vie qui, selon nos mots d'origine, doit faire des chrétiens d'autres Christ. Et cela, dans l'ordinaire des jours, comme dans les situations exceptionnelles de la persécution, dans la vie conjugale, comme dans le cadre du vie monastique, etc. Que la réalité, bien sûr, est sans cesse apportée des démentis à cet idéal, cela va de soi, et les pères de l'Église en sont conscients constamment. Mais les pères n'en partagent pas moins cette conviction selon laquelle le Christ, non seulement est la voie, non seulement est la vérité, mais est réellement la vie pour quiconque, dans l'esprit, s'attache à lui et devient son ami. Et la christologie patristique, de ce point de vue, me semble inséparable d'une pratique. Jean-Louis y a fait allusion tout à l'heure. Une pratique qui est comme telle le lieu d'émergence du langage christologique. Et si la christologie est d'une immense variété d'Orient en Occident, depuis les homélies d'Origène jusqu'aux hymnes d'Ambroise, depuis les poésies d'Éphrem jusqu'aux traités doctrinaux sur l'incarnation, cette variété même témoigne à sa façon de la remarquable créativité que suscite la vie du Christ selon la diversité des lieux et des temps. Je voudrais ajouter que ces considérations que je viens de faire invitent, me semble-t-il, à prendre quelque peu distance par rapport à l'idée selon laquelle la christologie patristique aurait connu son apogée avec les chefs-d'œuvre des Cappadociens ou des grands auteurs du Ve siècle comme Augustin, Cyrille ou Léon le Grand. Bien sûr, cette appréciation a une grande part de vérité du point de vue doctrinal, mais elle risque par contre de ne pas rendre suffisamment justice à ce qui s'est passé dans les tout derniers siècles de l'époque patristique. J'ai voulu aller jusqu'au 7e, 8e siècle. On s'en rend compte à propos du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, où la vie même, l'expérience même de communautés chrétiennes confrontées à d'autres religions a permis l'émergence de nouveaux langages pour parler du Christ. Et surtout, la destinée de la christologie latine, après la chute de l'Empire romain, me semble mériter aujourd'hui même la plus grande attention. En effet, alors que l'Occident fut marqué dans les derniers siècles de l'époque patristique par de très importantes migrations qui bouleversaient dans une large mesure l'héritage de la culture antique, la vie du Christ continua de se transmettre malgré ou à travers les mutations culturelles et religieuses de l'époque. Et elle donna lieu à des formes de christologie renouvelées, comme on le voit en particulier chez Grégoire le Grand, au tournant du VIe et du VIIe siècle. Il m'est apparu qu'il était possible d'identifier quelques traits majeurs de ce qui se dessina alors. Une nouvelle perception de l'écriture comme matrice de la christologie. C'est absolument net chez Grégoire le Grand. D'autre part, une attention nouvelle ou renouvelée aux signes et aux exemples à travers le Christ se manifeste comme vivant dans le présent de l'histoire. Grégoire le Grand qui écrit les fameux dialogues, qui présente la vie, qui raconte ce qui vient de se passer avec la vie de Saint Benoît, etc. En troisième lieu, la préoccupation de préserver et de faire connaître, par-delà ce traumatisme qu'a représenté l'effondrement de l'Empire romain, la préoccupation de préserver et de faire connaître l'apport de la tradition antérieure à propos du Christ. Enfin, le souci de ne pas transmettre cet héritage de la christologie des premiers siècles sans transmettre en même temps le meilleur de la culture antique dans laquelle le christianisme avait en quelque sorte trouvé sa première forme d'inculturation. C'est ce qu'on voit en particulier dans l'Espagne du VIIe siècle avec l'ouvrage « Les étymologies » d'Isidore de Séville. Et j'avoue, je terminerai par là, j'avoue que cela a été pour moi l'une des plus belles surprises de mon travail sur la christologie latine. Alors que les IIe et IIIe siècles nous font assister à la genèse de diverses christologies tout autour du bassin méditerranéen, alors que les 4e et 5e siècles nous mettent en présence de géants, Augustin et beaucoup d'autres, et nous mettent en présence de puissants efforts de réflexion sur l'identité du Christ, les derniers siècles de l'époque patristique, eux, nous rendent eux-mêmes témoins de nouveaux commencements. Et je pense que ces nouveaux commencements sont particulièrement parlants pour nous qui, mutatis mutandis, avons aussi à penser la foi au Christ, aujourd'hui, dans une situation de profonde mutation culturelle et religieuse. Certes, ce travail de pensée doit être notre propre tâche. Il n'est pas possible de prétendre répéter purement et simplement ce qu'ont écrit les pères de l'Église. Mais la christologie, ou plutôt les christologies de l'époque patristique, nous offrent des ressources essentielles pour une telle tâche, car aujourd'hui comme hier, et je pense plus que jamais dans le contexte d'un monde pluriel, pluraliste, la théologie ne peut pas se dérober à l'exigence de dire ce qui, du point de vue de la communauté chrétienne, autorise à parler encore du Christ comme étant la voie, la vérité, la vie. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Michel. Je pense que nous avons entendu quelque chose comme de la passion à travers ce que tu nous as dit. Et merci de nous avoir partagé ainsi ton travail. Alors, maintenant, je propose qu'on prenne un petit temps pour échanger avec vous qui êtes là dans la salle. Vous avez peut-être aussi des questions, des remarques, des... Alors, je vais chercher un micro.
Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions respectives qui étaient très intéressantes, très édifiantes. Et en fait, je m'interrogeais surtout sur l'universalité justement de la voie christologique, qui est quand même un thème récurrent, enfin, qui apparaît. Et donc, j'avais une question à ce sujet qui pourrait s'apparenter à une question sur l'avenir de l'Église, en fait. La voie christologique, de quelle manière peut-elle s'annoncer sur cet avenir de l'Église? Et donc ma question, c'est l'universalité du Christ de nos jours, est-ce qu'elle ne devrait pas de nos jours s'inscrire dans une théologie prolongée jusqu'à une philosophie chrétienne accessible à tous, quelle que soit leur croyance? Ne serait-ce pas une manière pour l'Église de s'ouvrir davantage à ceux qui ne croient pas ou croient autrement, de s'universaliser dans l'esprit des béatitudes qui ne dit pas « heureux les chrétiens miséricordieux », mais « heureux les miséricordieux ». En définitive, la voie de la christologie n'est-elle pas appelée à s'universaliser davantage, non pas en compromettant la foi chrétienne qui de toute façon est une grâce reçue, mais plutôt en reconnaissant certains non-croyants ou croyants d'autres religions ou d'autres croyances comme pouvant participer à la construction de l'Église universelle attendue par le Christ? Pour comparaison, les Juifs ont reconnu des non-Juifs, par exemple, comme étant des justes ayant protégé le peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour prendre un exemple extrême. N'y a-t-il pas une reconnaissance possible de l'Église de personnes d'autres croyances, mais dont les fruits ont été évangéliques de manière implicite? Voilà.
Merci pour cette question très élaborée. On va aller entendre Michel. À moins qu'il y ait d'autres... Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Oui, merci pour votre question. Merci pour votre question. Je comprends et je partage entièrement votre souci qu'une théologie chrétienne, une christologie en particulier, soit aujourd'hui attentive aux autres croyances, à d'autres croyances. Je pense que dans ces perspectives même, la littérature des Pères de l'Église nous est extrêmement précieuse parce qu'elle nous donne des critères de discernement, en quelque sorte, pour prendre ce mot qui était employé. J'évoquais tout à l'heure Clément d'Alexandrie, donc fin IIe siècle. Clément d'Alexandrie est quelqu'un qui était convaincu que la vérité, avec un V majuscule, était dispersée dans le monde des nations. C'est le mot qu'il employait, vérité dispersée. Le logos spermatikos, la vérité dispersée. Voilà. Et tout son travail, c'était justement d'essayer de reconnaître, de recueillir ce qu'il appelait les parcelles de vérité qui étaient présentes dans les diverses traditions, pas seulement en Grèce, mais aussi dans d'autres pays du monde alors connus. En même temps, bien sûr, Clément ne disait pas pour autant qu'on ne trouve dans le monde des nations que des parcelles de vérité. Il disait aussi il y a des doctrines, il y a des croyances qui sont incompatibles avec ce qui nous a été transmis par l'Évangile. Et donc, pour lui, il y avait un travail de discernement à opérer entre ce qui, dans le monde des nations, était précisément compatible avec la révélation chrétienne et qui devait donc être recueilli, et d'autre part, ce qui, par contre, s'avérait incompatible, incohérent avec la tradition reçue des apôtres. Alors je pense que toutes les différences de contexte, hein, bien sûr, que nous connaissons, nous sommes attelés aujourd'hui à des tâches assez proches. Il ne s'agit pas de jouer le christianisme contre les autres traditions, il s'agit, à la lumière de la foi chrétienne, de reconnaître comment ces autres traditions sont elles-mêmes travaillées par l'Esprit de Dieu. Et il s'agit d'essayer de travailler un discernement, précisément, éclairé par la foi, hein, de ce qui, dans ces traditions, justement, mérite d'être reconnu et pleinement accueilli du point de vue chrétien.
Oui, je crois que cet échange manifeste un point extrêmement important, mais je poserai la question aux spécialistes de ces périodes. Au fond, ma réflexion serait la suivante, c'est-à-dire les ressources théologiques des pères de l'Église sont extrêmement variées pour penser l'universalisme. C'est-à-dire, par exemple, un Origène et sa théologie du Logos a une manière, au moins une, de penser l'universalisme chrétien. Augustin en a une autre. C'est-à-dire qu'il serait peut-être intéressant de voir que la patristique, c'est-à-dire le monde des pères, est plein de ressources différentes pour penser le rapport de l'unique et de l'universel. Et qu'en utilisant telle ou telle ressource, on n'obtient pas toujours le même résultat. Et ça a été fait dans des contextes parce que les enjeux étaient relatifs à des circonstances historiques précises. Je repense beaucoup, parce que c'est un texte évidemment majeur, tu l'as cité, du père de Lubac, sur les incorporations du Logos. Aujourd'hui, il me semble que les ressources d'Origène, mais relues aussi dans la tradition occidentale, puisque de Lubac le montre dans ce texte, la théologie du Logos est quand même très intéressante pour penser l'universalisme du Christ dans les autres religions. C'est une ressource, mais ce n'est pas la seule. On pourrait prendre des ressources plus augustiniennes. Et je crois que... Bref, j'ai une question que je me pose. C'est comment peut-on utiliser, ce n'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, utiliser les ressources multiples des réflexions des pères pour penser le rapport à l'universel. Il n'y a pas qu'un universel chez les pères. Et aujourd'hui non plus, il n'y a pas qu'un universel. Je pense que les Occidentaux pensent l'universel d'une certaine manière. Je pense que le monde oriental en a une autre, a d'autres conceptions, etc., etc. Et je crois qu'il y a dans les ressources patristiques, me semble-t-il, des pistes pour penser de manière plurielle le rapport à l'universel, de la vérité à l'universel. C'est ce que votre échange m'évoque.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait... d'autres questions ? Une autre question ? Ici.
Merci beaucoup aux trois, y compris Étienne. Je voudrais revenir sur l'insistance qui a quand même parcouru les trois exposés sur le rapport entre, disons, discours théologique et, on pourrait dire, pastoral ou expérience chrétienne. J'y suis d'autant plus attentif, me semble-t-il, que par rapport à l'Écriture, c'est ce qui domine dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est l'expérience chrétienne, c'est l'expérience de la foi dans le peuple juif et dans les communautés chrétiennes. Et en effet, il me semble sain et, comment dire, judicieux de souligner, à travers l'importance de la pastorale et de l'expérience chrétienne, les petits, les 100 grades grâce auxquels, finalement, le christianisme s'est répandu. Le père Lyonnais, à propos de la voix du Christ, insistait beaucoup, jadis, dans son enseignement à l'Institut biblique, sur le fait que le christianisme s'est répandu par des communautés qui faisaient s'admirer, qui faisaient dire aux païens, voyez comme ils s'aiment. Et donc,
je vous suis reconnaissant.
Ça marche. Je vous suis reconnaissant de souligner cet aspect parce que il me semble quand même que dans le grand public chrétien, quand on dit patristique, quand on dit théologie, on pense réflexion spéculative, controverse, polémique, discussion sur des termes. On a parlé de l'homoousios, on a parlé de ce rapport conflictuel aussi entre les chrétiens et les juifs, alors que le terreau qui a nourri cette réflexion, elle n'est pas spéculative, elle n'est pas intellectuelle, elle est du vécu, parce que Jésus est la vie.
Oui. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui pour moi est de plus en plus important. Enfin, plus je lis, relis des textes de cette littérature patristique, plus je suis en effet sensible à cet aspect. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'ai pas du tout eu le projet de faire une histoire du dogme christologique. C'est important, l'histoire du dogme christologique, c'est très important. Et d'une certaine manière, je crois que j'ai un peu contribué à cela. Mais je n'ai pas voulu faire que cela, et même je n'ai pas d'abord voulu faire cela, hein, parce que je suis de fait extrêmement sensible à cet enracinement des langages sur le Christ dans une expérience chrétienne extrêmement diverse, multiforme. C'est absolument manifeste au deuxième, troisième siècle. Origène, par exemple, le lieu d'élaboration de sa christologie, c'est la lecture de l'Écriture avec d'autres. Il y a pas, voilà. Mais ça vaut aussi pour des époques ultérieures. C'est-à-dire que même des théologiens dont on a retenu de façon privilégiée les grands traités doctrinaux, sont des théologiens qui, en même temps ou d'abord, avaient cette expérience de lecture de l'Écriture, réfléchissaient sur l'expérience catéchuménale, sur l'expérience baptismale. C'est absolument net, par exemple, au IVe siècle, à propos de la Trinité. L'un des grands arguments des Cappadociens pour rendre compte de la divinité du Christ contre ceux qui la mettent en cause, c'est de partir l'expérience même que les baptisés vivent comme baptisés. Leur théologie n'est pas d'abord déductive. Dieu, le Père, le Fils partagent la même nature divine, donc l'Esprit partage aussi la même essence divine. Non, la voie royale de l'argumentation, pour eux, c'est une voie qui consiste à dire aux chrétiens, mais soyez attentifs à ce que vous avez déjà reçu, et à ce que vous vivez déjà comme baptisés. Et à partir de là, eh bien, ils remontent justement vers le mystère de la Trinité. Donc je crois de plus en plus à cet enracinement, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Au VIe siècle, avec Grégoire le Grand, ça va être l'expérience de la mission dans les îles britanniques, qui va être un lieu d'élaboration d'une réflexion sur le Christ, ou d'un langage sur le Christ, etc. Par rapport à ce point-là, est-ce que Isabelle, tu voudrais dire quelque chose? Ouais, ouais.
Donc je consonne bien sûr tout à fait ce que vient de dire Michel. Et je voudrais dire aussi, par exemple, et ça tu le soulignes bien, mais à quel point c'est aussi le concret de la mission, du dialogue éventuellement avec des païens, qui va enrichir en fait l'expression christologique. Alors tu le donnes, tu l'indiques au passage avec la lettre à Volusianus, la lettre 137 à Volusianus d'Augustin. Bon, parce qu'en fait, c'est parce qu'il doit répondre aux questions d'un néoplatonicien, enfin d'un païen teinté de néoplatonisme à propos du Christ, que Augustin en arrive à des formules qui annoncent directement qu'elle s'éloigne. Bon, même si on peut dire que persona n'a pas exactement le même sens, etc., mais quand même, il arrive à des formules qui sont extrêmement proches, et en tout cas à une exigence. Et donc ce souci, parce que cette lettre est en même temps une forme de catéchèse, il relie toute l'Écriture pour montrer que tout s'accomplit dans le Christ. Et donc il me semble que la mission est elle-même le lieu où s'élabore la réflexion christologique. Bon, tout comme l'expérience spirituelle, et tu le montres très bien pour la lecture de l'Écriture, c'est certain que, si je prends encore Augustin, la lecture du psautier, tout entier lu par le Christ, avec le Christ en lui, si je puis dire, ça donne une dimension au mystère du Christ qui est extraordinaire, parce que c'est vraiment le Christ total, mais le Christ dans toutes ses dimensions de son existence, et en même temps, ça permet à chaque chrétien de vivre de ce mystère du Christ. Du coup, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret pour chacun. Donc, en ce sens-là, je consomme tout à fait ce que vient de dire Yves, à savoir à cette corrélation très forte entre l'expérience et puis l'élaboration de la foi, dans des, même y compris d'un point de vue dogmatique.
Je trouve que de ce point de vue-là, l'ensemble de tes volumes, c'est une bonne antidote, c'est-à-dire que le christologue, en général, il prend les catégories de la patristique et il en fait des concepts abstraits. C'est-à-dire qu'il, non seulement il faut les restituer au contexte de leur élaboration, mais il y a aussi le fait que ces trouvailles de lexique nouveau, ces formules qui seront entérinées par des conciles, au fond, sont des conquêtes, entre guillemets, missionnaires et pastorales. Ce ne sont pas d'abord des inventions conceptuelles. Une fois que la langue chrétienne va se constituer de manière, par des catégories, enfin, on va transformer la langue en catégories. Mais dans les sept premiers siècles, on a des conquêtes qui tentent de résoudre des questions d'ordre anthropologique, spirituel, pastoral, ecclésial, missionnaire, de rapport à autrui. Et une fois qu'on va avoir un vocabulaire et un lexique, notamment latin, puisqu'on arrive à ce moment-là, qui devient de plus en plus riche, on va transformer les choses en catégories. Mais pour comprendre le travail que nous avons à faire aujourd'hui, il faut quand même comprendre l'analogie, c'est-à-dire c'est la même chose aujourd'hui. Revisiter le dogme, ce n'est pas répéter des catégories abstraites, c'est refaire l'opération de conquête pastorale, entre guillemets, de recomposition d'un langage pour parler aux autres, les autres d'aujourd'hui. Et je crois que la manière de présenter dans tes volumes chronologiquement et dans les espaces, dans les aires géographiques, l'élaboration doctrinale, on voit bien qu'il, pour le dire avec un autre jésuite, il y a une pastoralité de la doctrine.
Ça ne veut pas dire que pour moi, il n'y ait pas un intérêt majeur à comprendre les controverses, je dirais, les plus spéculatives auxquelles les pères grecs se sont trouvés confrontés entre le 5e et le 7e siècle, 8e siècle. Il y a eu là un foisonnement de vraiment une créativité tout à fait impressionnante. Parfois, on a l'impression d'une grande subtilité de la réflexion christologique, hein, quand les pères discutaient sur les concepts d'anipostasie, sur le débat avec le monothélisme, tout ça. Mais ça reste aussi très important. Mais simplement, je crois de fait qu'il ne faut pas du tout, ce serait vraiment erroné, ce serait une erreur de perspective que de réduire la christologie à cela. Et on oublierait alors son enracinement dans l'existence chrétienne comme telle, à travers ces diverses formes.
Est-ce qu'il y aurait une autre question ou remarque ou...
Dans l'ère patristique, mais aussi particulièrement grâce à vos livres, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment les chrétiens sont toujours obligés d'expliquer d'une nouvelle manière quelque chose qui leur paraît fondamental et dont ils vivent. Et finalement, c'est souvent quand ils sont contestés ou pas compris ou qu'ils ont l'impression qu'ils sont mal compris, etc., qu'ils sont poussés à expliquer davantage, à trouver des mots plus justes, à concevoir finalement de nouveaux, ce qu'on appellera de nouveaux concepts. Mais c'est souvent dans un rapport difficile. une certaine crise, pour reprendre comme chance pour l'Église, quoi. Et je trouve que pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant. Parce que quand on est dans un monde complètement laïque, on a souvent l'impression qu'il y a des critiques qui sont faites, qui ne sont pas toujours justifiées, qui ne sont pas toujours réfléchies. Et du coup, il s'agit de trouver aussi des mots pour le dire qui soient à la fois dans la culture de la personne qui est en train de nous parler et en même temps qui permettent de faire un déplacement, souvent. Donc je trouve que effectivement les pères de l'Église, à travers tous ces siècles patristiques, sont un encouragement pour aujourd'hui.
Une autre question de...
Merci, en tout cas.
Peut-être on peut prendre dans la foulée une question de Monsieur Tello. S'il vaut mieux un micro, je pense, c'est pas mal. Ouais.
Merci beaucoup. Au rebours de l'insistance qui est mise à mentionner l'analogie de la période sous revue et de la nôtre, je mentionnerai quelque chose à quoi je suis sensible et je voulais savoir si vous l'étiez aussi, c'est que une grande partie de nos concitoyens, c'est pas tellement qu'ils s'opposent à ce que nous pensons, c'est qu'ils s'en foutent. Les pères de l'Église ont peu eu l'occasion de se battre contre l'indifférence. Ils se sont battus contre des gens qui disaient autre chose ou qui partaient d'un autre point de vue ou qui ceci ou qui cela. Alors, c'est quand même une nouveauté de la période et c'est probablement une nouveauté qui va durer, que nous devions nous exprimer face à l'indifférence. Alors là, est-ce un problème si nouveau que ce que je crois, premier point, et deuxième point, s'il est nouveau, quelles ressources, pour reprendre un mot qui a été beaucoup utilisé ce soir, les pères de l'Église offrent-ils dans ce débat presque, qui n'est même plus un dialogue, qui est un monologue où on s'enfonce dans un ventre mou.
Oui, merci beaucoup. C'est une question, je crois, très, très importante. Il faudrait évidemment distinguer les périodes et les lieux. L'époque patristique, toujours se rappeler, c'est 7 ou 8 siècles. Ce sont beaucoup de pays, beaucoup de régions. Ce que je serais porté à dire spontanément, c'est que, évidemment, beaucoup de textes que nous lisons, les pères de l'Église, font état de discussions, de débats, de controverses, avec des gens qui partageaient un certain nombre de croyances. Voilà. Et donc, les pères s'opposent parfois à ces croyances, ou ils en retiennent des éléments, suivant les cas. Donc, en ce sens-là, ce ne sont pas des indifférents, ce sont des gens qui ont des convictions. Voilà. Si on s'en tient, justement, aux textes les plus connus, les textes dont on parle le plus souvent dans le champ de la littérature christologique des pères de l'Église, ou théologique plus largement. En même temps, moi, ce qui me fera beaucoup, c'est que, d'abord, pour ce qui est du 2e et 3e siècle, hein, toujours se rappeler quand le christianisme est minoritaire à cette époque, très, très minoritaire, et que les pères de l'Église, enfin, par exemple, on voit ça avec des premiers écrits en langue latine, Minucius Félix ou Tertullien, ils sont en présence de groupes humains, de communautés qui n'ont, au point de départ, enfin, au moins à travers l'ensemble de leurs membres, aucun intérêt pour l'annonce de l'Évangile. Et donc, ils doivent s'efforcer de les convaincre. On ne se rend pas compte tellement, je dirais encore une fois, on ne se rend pas bien compte à travers les grands textes doctrinaux. Mais quand on lit la correspondance, quand on lit la correspondance de Cyprien, quand on lit des traités, lorsque Cyprien écrit, par exemple, à propos de tremblements de terre, de famine, de catastrophes qui marquent la population de Carthage ou des environs. Alors là, beaucoup de gens disent, voilà, le christianisme,
pourquoi, enfin, donc ils sont bien confrontés quand même à des questions de ce type. Et alors, surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand on avance plus loin dans les siècles, donc 4e, 5e, 6e siècle, on voit que beaucoup de pères de l'Église reprochent à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs leur tiédeur, leur manque d'intérêt. Vous venez de temps en temps à l'Église, mais enfin, vous préférez aller voir les spectacles au cirque, etc. Et au VIe siècle, un homme comme César d'Arles se bat, à sa manière, contre une espèce d'indifférence pratique. Alors, d'autant plus redoutable qu'elle marque des gens qui sont par ailleurs baptisés. Mais César d'Arles se trouve confronté à cette situation. Au VIe siècle, voilà, le christianisme est implanté depuis un certain nombre de décennies en Provence. Et en même temps, il constate qu'il y a une grande indifférence, pour reprendre ce mot, par rapport à ce qui fait le cœur même de l'Évangile. Alors, il me semble que c'est par ce biais, alors, je ne veux pas dire par là que la situation soit la même que la nôtre, hein. Je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à un phénomène tout à fait spécifique, hein, de l'indifférence. Mais je pense que par ce biais, on pourrait trouver au moins directement des éclairages par rapport à cette question. Je ne sais pas ce qu'on pense, Joël ou Jean-Louis.
Moi, spontanément, je pensais peut-être au rôle médiateur de la philosophie qui a été utilisé par les pères de l'Église. Je pense à deux exemples à propos d'Augustin. Augustin, face à Honoratus, dans le De Utilitate Credendi, de l'utilité de croire, Honoratus, il est plongé dans la secte manichéenne. Et il faut l'ébranler, parce que pour lui, il n'y a plus rien à chercher. Et je trouve absolument fascinant de voir Augustin utiliser carrément les ressources du scepticisme pour ébranler ses soi-disant certitudes. Donc il va chercher Cicéron, les académiques de Cicéron. Et puis à partir de là, lui dire, ben, maintenant, supposons, une fois qu'il a un peu ébranlé ses pseudo-certitudes, lui dire, bon ben alors, supposons que nous ne sachons rien. Bon ben qu'est-ce que... On pourrait quand même se poser de la question, quelle est la vraie religion ? Et puis, il essaye de reconstruire pas à pas, de construire tout un chemin. Ça, c'est un exemple. Et l'autre exemple auquel je pense, c'est la correspondance d'Augustin avec Dioscore, c'est-à-dire la lettre 118 d'Augustin. Dioscore est un étudiant qui se dit, qui en fait cherche des explications sur certains passages de Cicéron. Mais la foi chrétienne, ça ne l'intéresse pas. Et il vient interroger Augustin, qui apparemment, ce qui l'intéresse simplement, c'est qu'Augustin est très compétent en matière cicéronienne, puisque c'est un ancien professeur de rhétorique. Et à partir de là, Augustin lui dit, mais bon, tu t'intéresses à ça, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la quête du bonheur. Alors, je me dis pas que c'est aujourd'hui de la même façon qu'il faudrait s'y prendre, mais donc, à partir de là, il examine les différentes philosophies disponibles à son époque. Et bon, il prend l'épicurisme, il prend le stoïcisme, il prend le néoplatonisme, et puis de là, il montre l'intérêt et les limites de chacun, il y a une sorte de gradation, pour arriver à dire que le christianisme peut-être peut apporter quelque chose qu'aucune des autres philosophies de l'époque ne peut apporter. Alors, c'est bien évident qu'on ne peut pas faire la même chose qu'Augustin, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le recours, en tout cas, à la philosophie pour soit ébranler, soit... en tout cas mettre en branle, mettre en recherche. Et c'est vrai que spontanément, immédiatement, quand j'ai entendu votre question, moi je me suis dit qu'un auteur, mais qui est quand même très inspiré par les pères et qui pouvait être très utile dans cette perspective, c'était Pascal. Mais on est bien évidemment à une autre époque, mais il est malgré tout fortement inspiré par les pères de l'Église.
Je pense qu'il est important de se redire aussi que les textes que nous avons, enfin beaucoup de textes que nous avons de pères de l'Église en débat avec d'autres croyants, des juifs, néoplatoniciens, païens, entre guillemets, etc. Ces textes sont en quelque sorte, ils se détachent, hein, sur un fond culturel extrêmement varié dans lequel il y avait toutes sortes de choses, beaucoup de religiosité, des croyances et aussi des phénomènes quand même, je pense, un peu équivalent à ce qu'on appellerait aujourd'hui indifférence, en sachant que quand on dit indifférence aujourd'hui, ça veut dire indifférence par rapport au christianisme, mais ça veut dire que bon, les gens peuvent être parfois moins indifférents par rapport à un certain nombre d'autres valeurs dans la société. Bon, je crois qu'il y avait quelque chose de ce genre qui plus ou moins devait se, se présenter dans la situation de l'Antiquité, même si, évidemment, les textes des intellectuels, entre guillemets, témoignent moins directement de cet aspect-là. En tout cas, je crois que c'est une question vraiment très intéressante, qui serait sûrement à creuser. Alors, je voulais dire un tout petit mot par rapport à l'intervention précédente. Merci beaucoup de ce que vous disiez sur la situation des pères de l'Église en dialogue avec d'autres. Vous avez remarqué que ça avait acculé, en quelque sorte, les pères de l'Église à approfondir leur intelligence de la foi à propos du Christ ou dans d'autres domaines. Et je crois que c'est très, 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 très vrai. Hein. C'est-à-dire, en fait, il y a eu deux chemins par lesquels les auteurs chrétiens des premiers siècles ont été conduits à approfondir leur réflexion sur le Christ. Je dirais d'abord, en interne, si je puis dire, une sorte de nécessité pour la communauté chrétienne de mieux comprendre ce qu'elle croyait, donc tout le travail de la catéchèse, de l'exégèse était ordonné à cela. Et puis, d'autre part, il y a eu, en effet, ce stimulant, si je puis dire, extraordinaire, qu'ont représenté les objections, les argumentations des autres croyants. Et je crois que c'est de fait très, très révélateur de ce que nous avons d'une autre manière à faire aujourd'hui. Nous sommes voilà, aussi en dialogue, en débat avec d'autres qui ne partagent pas forcément la foi chrétienne, mais le fait d'être en débat avec eux peut nous aider sur certains points à avancer de nouvelles catégories, parfois à présenter les choses d'une manière plus parlante dans le contexte de notre temps. Je crois qu'il y a une vertu propre du dialogue, bien compris, hein, s'il est exempt de polémique, hein, une vertu propre du dialogue pour aider un approfondissement de la réflexion sur le Christ, ou plus largement de la réflexion théologique.
Est-ce qu'il y aura une dernière question ?
Je voulais savoir aussi s'il y avait, en fait, en dehors du judaïsme ou de la philosophie néoplatonicienne, enfin, du Dieu inconnu dont parlait Paul enfin, au peuple de l'époque, de l'Antiquité, à Éphèse, etc., s'il y avait aussi des éléments prophétiques que l'on pouvait retrouver dans d'autres religions païennes, paganistes, je pense par exemple à la religion de Mithra ou à ces religions-là, voilà, ou mésopotamiennes également. Des éléments prophétiques qui allaient annoncer en fait la voie de la christologie par la suite et qui ont pu faire débat aussi sur la christologie par la suite. Quoi. Je ne sais pas si je suis très précis dans ma question.
Si. Alors pour ce qui est des mystères de Mithra, non. Les textes patristiques que je connais et qui font allusion, qui font référence au mystère de Mithra, sont tous extrêmement critiques. Il faut se rappeler que les mystères de Mithra, ça vient justement au tournant de l'ère chrétienne et souvent enfin, les chrétiens qui en parlent, les auteurs chrétiens qui en parlent, précisément situent leurs propres mystères en les démarquant, en les distinguant, en les différenciant des mystères de Mithra. Saint Justin, dans son Apologie, dit ben, voilà, nos mystères, ce ne sont pas les mystères de Mithra, mais ce sont donc, le baptême, l'Eucharistie. Donc il y a il y a une insistance unilatérale hein, sur l'incompatibilité entre ces mystères de Mithra et le christianisme. On pourrait aussi souligner la très très grande fermeté des auteurs chrétiens par rapport au manichéisme, hein, cette religion qui naît au IIIe siècle. Parce que le manichéisme, pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que le manichéisme implique une conception de Jésus qui est absolument irrecevable du point de vue de la foi transmise par les apôtres. C'est une négation de la véritable humanité du Christ, et puis pour beaucoup d'autres raisons aussi. Je pourrais continuer l'énumération. Je pourrais aussi parler du mazdéisme, puisqu'il y a des pères de l'Église qui ont été confrontés à la religion zoroastrienne, qu'on appelle mazdéenne. Non, là, par contre, où il y a des débats, je dirais, beaucoup plus sereins et qui sont marqués par l'exigence d'un véritable discernement, eh bien, c'est quand il s'agit d'une part du judaïsme, et puis d'autre part, des philosophies, hein, les sagesses, les philosophies, les pères de l'Église du 4e, 5e siècle, un certain nombre d'entre eux connaissent très très bien la philosophie néoplatonicienne. Ils en sont souvent marqués, ils en sont profondément marqués. Et il ne faut pas dire qu'il y a d'un côté les chrétiens et de l'autre les néoplatoniciens, parce que bon, les chrétiens eux-mêmes intègrent tout ce qui leur paraît possible d'intégrer dans le néoplatonisme. Simplement, eh bien, ils essayent, à travers ce langage néoplatonicien, ou cette philosophie néoplatonicienne, de dire, d'exprimer l'originalité de la foi chrétienne, ce qui suppose du coup des débats, des controverses avec des néoplatoniciens païens comme Proclus ou Porphyre, voilà. Mais là, il y a vraiment des discussions extrêmement intéressantes et qui sont marquées par un esprit, un souci de discernement. Et puis, pour prendre une dernière référence, si on va tout au bout de l'époque patristique, je faisais allusion tout à l'heure aux missionnaires nestoriens, entre guillemets, qui se sont rendus en Chine. On a des textes de présentation du christianisme en langue chinoise avec traduction en syriaque. Et ces textes manifestent une certaine intégration d'images ou de termes qui ont du sens, qui sont parlants pour les bouddhistes ou pour les confucéens. Alors, on sait que les missionnaires nestoriens ont été justement au courant, ont été informés de ces religions d'Extrême-Orient, certaines en tout cas, et qu'ils en ont tenu compte dans leur propre manière de présenter le christianisme.
Là, je pense qu'il est l'heure d'arrêter. Et donc, je remercie encore une fois beaucoup nos trois intervenants. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Voilà.